Voici le grand 8.
Radio Suisse Romande, le grand 8.
Nombre de femmes qu'on voit dans ces conseils d'administration adoptent la manière de penser, voire de s'habiller des hommes. Et donc, c'est comme si on avait, excusez-moi l'expression, un demi-homme en plus, c'est pas une vraie femme. Moi, je pense qu'une des clés, elle est là. Dans le courage de la femme de s'affirmer en tant que telle dans ses activités économiques qui sont encore dominées par les hommes.
Daniel Cordonnier, docteur en psychologie, c'était hier matin. Bonjour à tous. Ce matin, dans le Grand 8, on va d'abord parler d'un nouvel outil informatique qui pourrait bientôt s'imposer comme nouvel outil indispensable. Il s'agit de l'ardoise digitale. Après l'iPod et l'iPhone, qui ont profondément modifié nos habitudes du quotidien, Apple pourra présenter dans une semaine iSlate. iSlate, c'est une tablette électronique constituée uniquement d'un grand écran tactile connecté à Internet. Les applications seraient multiples et ouvrirait de nouveaux horizons, à vrai dire, pour l'homme nomade. On va en parler avec vous, Jean-Louis Pin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste, RSR, spécialiste multimédia. À propos de nouvelles technologies, on a le plaisir également de recevoir ce matin une personnalité qui les utilise à fond. Il s'agit du nouveau conseiller aux États neuchâtelois, Raphaël Comte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en direct de Neuchâtel, vous avez été élu ce dimanche, félicitations.
Merci.
Et avec vous, on va parler d'une vraie tendance en Suisse, hein, tendance que vous incarnez d'ailleurs, les jeunes restent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Raphaël Comte, vous avez 30 ans, vous êtes donc le plus jeune sénateur et vous vivez encore chez vos parents. Certains appellent ça le syndrome Tanguy. On va en parler avec vous, bien sûr, mais également avec une philosophe, écrivain, médiatrice familiale, Martine Libertino. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en direct de nos studios de Genève. Internet, sauveur de l'horlogerie suisse. À l'occasion de l'ouverture du Salon international de la haute horlogerie, SIHH, à Genève, l'étude World Watch Report est révélatrice. En dépit de la crise, la demande exprimée sur Internet pour la haute horlogerie a progressé de 14% l'année dernière. Facebook n'est pas en reste. Le site représente la plus grande communauté de fans d'horlogerie avec plus de 300 000 membres déclarés. David Sadig, bonjour.
Bonjour.
Merci vous aussi d'être avec nous en direct de Genève. Vous êtes directeur associé d'IC Agency qui édite cette étude spécialisée dans le conseil marketing sur Internet.
Le Grand 8, Joël Marchetti.
Mais tout d'abord, donc, dans ce Grand 8, iSlate, c'est le nom probable de la tablette électronique qu'Apple pourrait bien présenter la semaine prochaine. La tablette électronique, c'est-à-dire un outil qui n'existe encore pas vraiment, même s'il y a eu quelques tentatives, certains articles existent déjà. Bon, enfin, le secteur doit être développé. Jean-Olivier Pin, après avoir révolutionné la façon de consommer et d'acheter de la musique, après avoir révolutionné la téléphonie mobile avec l'iPhone, Apple pourrait réussir, selon vous, une nouvelle forme de révolution avec iSlate.
En fait, là, justement, tout est dans le conditionnel. Pourrait révolutionner, parce qu'en fait, pour l'instant, Apple n'a rien confirmé. Ils arrivent à laisser à faire le teasing, à laisser traîner
d'Apple.
Le doute, justement, et à exciter un petit peu tout le monde de cette technologie autour de ce nouveau produit qui, pour l'instant, devrait être présenté. Mais pour l'instant, on n'a aucune confirmation. On a effectivement des bruits qui courent en disant c'est le 27 janvier que tout va se produire à San Francisco, mais pour l'instant, on ne sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est faire des conjectures.
D'accord.
Ça, on est un peu les champions.
Alors, justement, on évoque un appareil, tout le monde on en parle, l'appareil qui pourrait cette ardoise digitale. On est un peu à mi-chemin entre le téléphone portable et l'ordinateur portable. C'est un secteur, alors un segment qui où il y a déjà des modèles qui existent, mais enfin tout reste à faire là-dessus.
Alors en fait, je crois que le modèle sur lequel il faut se focaliser, c'est l'ardoise magique d'il y a quelques années. Hein. L'ardoise magique, c'est-à-dire que tout se passe sur l'écran. Il n'y a pas besoin d'avoir un bouton quelconque pour faire une action quelconque. Tout se fait par l'intermédiaire de ses doigts ou même d'un stylet. Donc, et ces deux choses-là vont gouverner l'exploration. Et le surf sur ce nouvel appareil, en fait.
Donc, pour la tablette électronique, donc concrètement, alors, comme vous me le décrivez, c'est un truc à écran tactile, un peu plus grand qu'un téléphone, plus petit qu'un ordinateur, connecté à Internet, pour faire quoi, par exemple?
Alors, on peut faire tout ce qu'on fait avec un ordinateur normal, puisque la puissance devrait être à peu près équivalente à celle d'un ordinateur normal. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On télécharge, on surf, on lit des fichiers multimédia, on fait tout ce que nous permet de faire la vie numérique, en fait.
Une potentielle nouvelle révolution dans nos habitudes de pratiquer l'informatique. Vous y croyez ?
Alors oui, en fait, tout le monde est sur le coup. Hein. Tout le monde est sur le coup, c'est-à-dire à la fois Microsoft et HP, à la fois Arcos, Sony, etc. Ils sont tous là en train de tendre leur nouvelle tablette tactile en disant c'est là mon produit de l'avenir. Mais effectivement, au tournant, on regarde forcément Apple, puisque eux précèdent la mode, c'est eux qui la dictent. Alors ils la dictent de manière, d'une part, par l'appareil, par le hardware, hein, comme ça a été fait avec l'iPhone, en disant mon appareil il est très joli. Mais en plus, et ça c'est la grande nouveauté, ils arrivent en plus à mobiliser mobiliser toute la communauté pour mettre à l'intérieur des logiciels et de créer donc aussi une émulation autour de leurs produits. En fait.
David Sadig, je le disais, on est entre un peu le téléphone portable et l'ordinateur portable. Ce segment-là, est-ce que vous y croyez ? C'est un secteur, un segment d'avenir ?
J'y crois totalement, parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire récente, on se rend compte qu'en fait, au début, on surfait sur des ordinateurs stations, ensuite, de plus en plus, sur des notebooks, sur des ordinateurs portables. Est arrivé l'iPhone et d'autres téléphones mobiles qui ont fait que les gens ont commencé à utiliser leur téléphone mobile. Et si en fait, si vous prenez la chaîne complète, vous vous rendez compte qu'il manque quand même aujourd'hui un appareil de la taille de cette tablette, un petit peu à l'image de ce que le Kindle d'Amazon a essayé de faire et qui en fait permettrait aux gens de pouvoir surfer d'une manière plus conviviale qu'avec un téléphone mobile, mais sans s'encombrer d'un ordinateur portable pour autant.
Ça veut dire que dans les trains, les gens seront encore plus autistes, chacun devant son écran, à travailler, à faire des jeux, à écouter de la musique, à regarder des vidéos, des choses comme ça. Bon, à part ça, ça s'ajoute quand même à pas mal d'appareils qui existent déjà. David Sadig, il y a le téléphone portable, l'ordinateur portable, vous l'avez dit, va bientôt falloir 12 bras pour voyager avec tous les outils nécessaires à bien travailler et à passer du temps.
C'est juste, mais je crois qu'en fait l'idée c'est qu'il y ait un ordinateur ou un type de terminal adapté en fonction du contexte et de ce que vous avez envie de faire. Typiquement, si vous avez déjà essayé de lire un livre aujourd'hui sur votre ordinateur, c'est pas extrêmement convivial, c'est pas vraiment fait pour ça, on peut pas tourner les pages et on sait qu'en moyenne, même en vitesse de lecture, on est à peu près à 25% de moins quand on essaye de lire au travers d'un ordinateur.
Intéressant,
essayez,
oui.
Essayez sur un iPhone, vous pouvez aussi. Au bout d'un moment, c'est fatigant, l'écran est trop petit, etc. Donc je crois que le vrai challenge qui est derrière ça, c'est est-ce que Apple ou d'autres constructeurs, votre chroniqueur l'a dit, hein, il y a d'autres marques qui sont sur les rangs aujourd'hui pour essayer de se positionner avec le Graal, en trouvant le Graal, à savoir le terminal qui va devenir le plus utilisé. Je pense que celui qui arrivera à résoudre le problème de la lecture et à en faire quelque chose de vraiment convivial aura plusieurs millions de clients à portée de souris, mais ce serait plutôt à portée de doigt.
D'accord. Martine Libertino, vous qui êtes philosophe, par rapport à ce nomadisme accru, ces outils qui se multiplient, et puis la recherche perpétuelle d'améliorer les performances de ces outils, où est-ce que ça nous mène ?
Alors justement, je vais me placer du point de vue de la philosophe, c'est-à-dire une empêcheuse de tourner en rond. Hein.
Encore,
oui. Il est vrai que tout ce qui est du domaine de l'informatique est passionnant et c'est un outil qui est vraiment utile pour nous tous. Mais en même temps, justement, je trouve qu'on s'occupe beaucoup trop de ces choses-là et qu'on oublie de s'occuper de l'être humain et de ses problèmes émotionnels. Malgré, je dirais, cette capacité pour l'homme de développer toute cette technologie. Finalement, on va aller jusqu'où ? Et vous avez parlé d'autisme tout à l'heure.
Oui.
Et c'est vrai que l'ordinateur peut servir notre société, mais en même temps, c'est une manière pour les êtres humains de fuir leur vie et leurs problèmes. Et là, il faudrait quand même faire un petit peu attention.
Oui, alors on parle de iSlave. C'est vrai qu'on peut se demander, David Sadig, si à terme, on va pas devenir des iSlave. Et au fond, si à force de vouloir avoir toujours plus de liberté, si ces libertés ne sont pas tout simplement en train de se restreindre ? Est-ce qu'on n'est pas des esclaves de ces technologies ?
Je crois qu'en fait, à chaque fois que la société a engendré des évolutions importantes, on a toujours eu des garde-fous, et je crois que c'est aussi le rôle de philosophes ou d'autres personnes dans la société d'essayer de mettre en exergue le fait que oui, il y a des risques qui peuvent être liés à ces nouvelles technologies, à l'évolution, au progrès en général. Mais je crois que là, il faut juste qu'on réalise tous qu'on ne pourra pas, de toute façon, aller à l'encontre de ces innovations-là.
Ouais.
Vous ne pourrez pas faire en sorte que vos enfants n'aillent pas sur MSN, vous ne pourrez pas faire en sorte que vos enfants n'utilisent pas le SMS. Donc à partir du moment où ça fait partie de l'environnement, la question n'est pas est-ce que c'est bien ou pas bien, la question est comment.
Et c'est intéressant
comment
ce que vous
dites.
D'accord. Et c'est intéressant, Martine Libertino, parce que ce que nous dit quand même David Sadig, c'est aussi de l'importance que des philosophes et des gens qui réfléchissent aux concepts soient intégrés dans le développement de ces nouvelles technologies.
Alors, effectivement, Monsieur Sadik dit des choses justes parce qu'on ne peut pas, aller à l'encontre du progrès. Il faudrait peut-être rajouter justement à notre échange ce qui est le plus important, à savoir que si un jeune ou une personne est assez équilibrée dans sa vie, si elle peut vivre en fonction de son idéal et de l'amour qu'elle peut se porter et du bonheur qu'elle peut trouver dans sa vie, effectivement, elle peut utiliser toute cette technologie parce que d'elle-même, elle saura faire des choix corrects. Elle aura la clairvoyance de faire des choix. D'accord. Ce n'est pas malheureusement le cas actuellement dans la société. Donc, c'est là, finalement, où est le problème.
Donc, ouais. Mais toujours plus de liberté quand même, Jean-Olivier Pain, vous êtes d'accord ? Toujours plus de liberté, de possibilités, de capacités.
Aussi, également, toujours plus d'esclavage, parce qu'en fait, pour trouver cette liberté, on a recours à des canaux qui nous rendent esclaves, en fait. On ne peut pas être enfermé au niveau collectif et libre au niveau individuel. Le niveau individuel, en fait, il n'est qu'un représentant de cet enfermement collectif.
D'accord, mais avec quand même pas mal de possibilités supplémentaires, des opportunités qui se développent. Raphaël Comte, je le disais tout à l'heure, hein, vous utilisez beaucoup, vous, les nouvelles technologies, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait.
Vous avez de l'appétit, vous, par exemple, pour le iSlate, une nouvelle tablette électronique qui pourrait arriver sur le marché. Est-ce que c'est quelque chose, vous, qui aurait de l'intérêt pour vous ?
Je pense, parce qu'il y a effectivement un manque d'une solution médiane. Il y a d'une part l'iPhone, mais qui est quand même un petit peu petit. C'est un téléphone un peu amélioré. Il y a de l'autre côté l'ordinateur portable, mais qui souvent est quand même un petit peu encombrant. Donc, il y a un besoin d'une solution qui soit médiane, qui soit très facilement transportable, beaucoup plus pratique que peut l'être un ordinateur portable. Donc, je pense que je vais faire partie de ceux qui seront assez vite intéressés à s'en procurer
un. Quitte à en devenir esclave.
Quitte à en devenir un petit peu esclave, mais quitte surtout à en voir ce qu'on peut en faire. Je crois que c'est surtout ça, le support en tant que tel, c'est pas ça le problème, c'est après ce qu'on fait des différentes choses. Et puis à chaque évolution technologique, les mêmes questions se posent. La société humaine évolue, on a dû se poser les mêmes questions lorsque le téléphone est arrivé. Et finalement, je crois que la société évolue et puis apprend à utiliser les différents instruments et apprendre surtout le bon.
Une attente particulière, Jean-Olivier Pain, par rapport à ce iSlate, le prix, on évoque par exemple 1000 francs à peu près. Est-ce qu'il y a concrètement vous une attente, une application
ce qui m'intrigue, c'est de qu'est-ce que Apple va pouvoir en faire, c'est-à-dire de quelle manière est-ce qu'ils vont pouvoir dépasser la concurrence du point de vue de l'innovation et de l'inattendu. C'est ça qui m'intéresse.
Ils l'ont déjà fait jusqu'ici. Alors, le marketing d'Apple.
Ils l'ont fait avec des tas de choses depuis le baladeur. Ils l'ont fait. Donc maintenant, on est tous en train de regarder ce qui va se passer. Moi, c'est de savoir de quelle manière ils vont faire le lien avec l'iPhone qui m'intéresse. De quelle manière est-ce qu'ils vont pouvoir relier les deux appareils, parce que bon. Comme ça, disjoint, ça me paraît un petit peu une perte de quelque chose. Donc, de quelle manière est-ce que l'ensemble de ces deux choses-là va créer quelque chose d'encore plus dynamique ?
iSlate, donc le nom probable, ça serait pas mal au conditionnel, le nom probable de cette tablette électronique qu'Apple pourrait bien présenter la semaine prochaine, mercredi, sauf erreur. On va parler à présent d'un phénomène qui prend de l'ampleur en Suisse aussi. Il s'agit du syndrome Tanguy, c'est son nom. Raphaël Comte, vous-même à 30 ans, je le disais tout à l'heure, hein, vous vivez encore chez vos parents. Merci d'être avec nous ce matin d'ailleurs pour en parler. C'est intéressant, c'est un choix qui a une explication, être encore chez ses parents à 30 ans. Dans votre cas, c'est un choix délibéré avec une explication derrière.
Alors moi, c'est particulier, c'est qu'en fait, j'ai deux lieux de vie. D'une part, à mon domicile familial, effectivement. Et puis d'autre part, j'ai aussi une chambre à Zurich depuis 4 ou 5 ans. Moi, le choix, il s'est fait à un moment donné, c'est de me dire, est-ce que soit je quitte la maison et je trouve quelque chose dans le canton de Neuchâtel, ou alors est-ce que j'essaie de trouver quelque chose qui me permette surtout de faire de l'immersion linguistique. Et moi, ça a été mon choix, c'est de prendre une chambre à Zurich pour y être 2-3 jours par semaine, de continuer à être sur Neuchâtel, notamment pour mes mandats politiques, et puis d'être 2-3 jours par semaine à Zurich pour apprendre l'allemand. Donc il y a un petit peu eu cette volonté-là, je dirais, c'est ça la réflexion qu'il y a eu chez moi. Et aujourd'hui, j'en suis plutôt satisfait parce que dans mon nouveau mandat de conseiller aux États, le fait d'avoir eu l'occasion d'apprendre l'allemand par immersion est sans doute une excellente chose.
Ok, très bien. Est-ce que ça veut dire alors que l'appui que peuvent offrir les parents jusqu'à la trentaine a parfois tendance à être négligé au nom de cette sacro-sainte liberté que les jeunes prennent évidemment forcément à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on néglige le soutien, l'appui, l'encadrement que peuvent offrir les parents passés la vingtaine ?
Bon, on vit dans une société qui est relativement individualiste. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui veulent s'émanciper un peu plus tôt. Après, toute la question, c'est de savoir si on peut le faire. Vouloir s'émanciper, mais après ne pas réussir à payer son appartement, etc. Et puis devoir faire un retour dans le domicile familial parce qu'on n'a pas réussi à s'assumer. Je ne pense pas que ce soit la meilleure chose. Maintenant, ça dépend aussi dans quel milieu on vit, quel est le lieu de vie. Pour ma part, dans la maison familiale, on a de la chance d'avoir deux étages, ce qui fait qu'il y en a un qui est dévolu à mes parents. parents et un pour moi, ce qui fait que tout en habitant chez mes parents, j'ai une autonomie totale.
Ça, c'est le vrai Tanguy, hein, excusez-moi. Raphaël Contat, c'est le vrai Tanguy, c'est justement ça. Hein. C'est arriver à trouver une structure, des étages séparés quand même, mais quand même dans ce giron-là. Hein.
Voilà, tout à fait. Mais si on avait habité dans un appartement avec une certaine promiscuité, je pense effectivement que j'aurais rapidement quitté le domicile familial.
À part ça, est-ce qu'habiter chez ses parents ne limite pas forcément, c'est la question qui se pose, hein, ne limite pas forcément l'expérience de vie qu'on peut acquérir, passer la vingtaine ?
Alors, moi, je l'ai combiné avec le fait d'avoir une chambre à Zurich, ce qui fait que 2-3 jours par semaine, j'avais la totale indépendance. Donc, pour moi, ça a été cette manière-là de faire les choses. Je n'aurais pas pu assumer financièrement le fait, d'une part, de faire l'immersion linguistique à Zurich, puis d'autre part, d'avoir un appartement dans le canton de Neuchâtel. Donc, il fallait que je fasse un choix, et j'ai fait le choix plutôt...
D'accord, privilégier une expérience plutôt qu'une autre.
Voilà, une expérience linguistique qui est aussi importante sur le plan... humain et professionnel. Je crois qu'on reconnaît de plus en plus l'importance des langues, donc c'est un choix qui, à mon avis, était justifié.
D'accord. Martine Libertino, en 2006, seulement 40% des jeunes de 22 ans avaient quitté la maison de leurs parents. Après tout, où est le problème ? On entend bien là le témoignage tout à fait argumenté, d'ailleurs, avec des vraies raisons quand même. Le choix plutôt d'un apprentissage linguistique plutôt qu'une indépendance sur le domicile central, le domicile principal. Bon, voilà, il y a une tendance. Est-ce qu'il y a un problème, selon vous, là-dedans ?
Alors, je crois que le problème n'est pas forcément dans le fait de rester chez ses parents, si les parents sont d'accord, si le jeune est d'accord et si chacun assume financièrement et autres le fait de vivre dans un clan. On pourrait plutôt parler d'un phénomène qui tend à s'imposer de plus en plus, à savoir des jeunes qui ne veulent pas sortir de la maison parce qu'ils ont peur de s'assumer et ils ont peur d'assumer leur rôle dans la société. Mmh. Et là, c'est un phénomène qui est de plus en plus grave.
Ils sont sclérosés, quoi.
Et ils sont sclérosés parce que, évidemment, il y a des raisons à cela. Et depuis 30 ans que je vois des jeunes et des familles, je vois que cette situation s'impose de plus en plus. Il faudrait peut-être voir les causes de cette difficulté. Alors évidemment qu'on peut dire d'une manière très générale et très sommaire qu'il y a une situation économique, hein, oui. Puisque le chômage est réel chez les jeunes. Donc si je n'ai pas d'argent, bah, évidemment, je ne peux pas m'assumer.
C'est ce que vous disiez, vous, Raphaël Comte. Mais... un raison économique aussi, à part ça, hein, évidemment.
Mais pour moi, ce n'est pas suffisant.
D'accord.
Ouais. Alors, la seconde, je dirais, il faudrait aller au-delà de cela et se rendre compte de l'état d'esprit, en fait, des jeunes d'aujourd'hui par rapport à notre société, par rapport à leur futur. Hein. Et je vois chez les jeunes, bon, bien sûr, pas chez tous les jeunes, hein, il ne faut pas généraliser, mais chez un grand nombre de jeunes, finalement, un désespoir caché. Hein. Et ce désespoir caché se manifeste par un désintérêt de la société, par une envie de... D'ailleurs, les jeunes le disent, moi, je veux dormir, je veux être devant mon ordinateur, je ne m'intéresse pas à la société. Il y a un rejet des adultes, un rejet de la société. Et évidemment qu'il faut chercher la cause de tout cela, parce que le but, ce n'est pas de dire les jeunes ont changé. Les jeunes sont toujours les mêmes. Et derrière ce déni, derrière ce rejet de la société et ce rejet d'eux-mêmes, parce que je vois aussi un grand manque d'amour des jeunes envers eux-mêmes, il y a chez eux une difficulté de voir ce qu'ils vont faire de leur avenir en regardant la société d'aujourd'hui et en regardant fonctionner les adultes.
Hein. D'accord.
Donc il y a chez eux une perte d'idéal, en fait.
Bon, hein. C'est intéressant, plusieurs points intéressants au fond dans ce que vous nous dites, mais Raphaël Comte, alors par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a tout un débat actuel sur les jeunes, et là je ne parle pas de votre cas particulier, mais des jeunes en général, que vous incarnez quand même, on se demandera après d'ailleurs où s'arrête la jeunesse. Mais enfin, juste avant ça, tout un débat donc sur les jeunes, certains affirment que ce sont des victimes de notre société, corvéables à merci. Enfin, oui, est-ce que les jeunes ne sont pas en train de se scléroser, je reprends ce terme-là. D'autres, sur nos ondes d'ailleurs, comparaient les jeunes d'aujourd'hui à des mollusques.
Écoutez, je pense qu'il y a à chaque jeune une situation différente, donc c'est toujours difficile de généraliser. Il y a une situation économique qui est un fait qui peut avoir une grande influence. Maintenant, je ne sais pas si la jeunesse d'aujourd'hui est plus sclérosée qu'avant. Je crois qu'il y a une évolution aussi de la société qui se fait. Donc, dans mon cas personnel, ça n'a pas été des réflexions qui étaient liées à un manque d'envie d'affronter la société ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est vrai vrai qu'il y a des parties de la jeunesse qui ont de très gros problèmes d'intégration dans la société et qui trouvent peut-être des solutions un peu marginales, qui seront un peu à la marge de la société. Mm-hmm. Ça, c'est un énorme problème parce qu'effectivement, ce sont des jeunes qui vont se trouver assez rapidement souvent à l'aide sociale et qui ne vont jamais s'intégrer finalement dans la société. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit notamment dans les milieux urbains et qui est assez inquiétant.
D'accord, quand même donc certaines inquiétudes qu'on entend hein, pour ce qui concerne les jeunes, en particulier en milieu urbain. Martine Libertino.
Oui, effectivement, ce que dit monsieur Comte est juste, mais en même temps, est-ce qu'on ne fait que la constatation ou est-ce qu'on trouve les causes pour pouvoir trouver justement la possibilité d'aider ces jeunes ? Ouais. Peut découvrir en fait aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a, on ne peut pas dire non plus, je n'aimerais pas dire que la société est complètement responsable, parce que les jeunes aussi peuvent remettre en question cette société et changer. Bon, mais
c'est
nous sommes tous
choses même qu'ils peuvent faire, non ?
Voilà, exactement. Bon, nous partageons cette responsabilité dans ce sens que, finalement, si on réfléchit bien, on a quelques minutes pour en parler, c'est difficile d'aborder tout ce sujet, mais on n'arrive pas à se sortir, finalement, de la période 68, qui était par ailleurs une période extraordinaire, parce que ça nous a permis de nous libérer de certaines conventions, mais en même temps, la société adulte n'a pas su comprendre cette notion de liberté que la vie nous offrait à travers cette remise en question.
Vous nous dites quoi ? Vous nous dites qu'aujourd'hui on est jeune de plus en plus longtemps, au fond, c'est ça que vous nous dites ?
Non, ce que je veux dire, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas donné le mode d'emploi aux adultes pour éduquer leurs enfants différemment, dans cette fameuse liberté, dans ce sens que nous avons aussi élevé des enfants rois, qui pensent que tout leur est dû, bon je parle évidemment de notre société occidentale, et qui en deviennent égoïstes et en même temps faibles parce que on passe notre temps à ce que les parents, je vois des parents qui passent leur temps à se culpabiliser parce qu'ils ne donnent jamais assez à leurs enfants.
Vous êtes d'accord avec ça, Raphaël Comte ? Excusez-moi, j'aimerais juste entendre Raphaël Comte, sur cette génération post-68, on en parle beaucoup, notamment dans tous les débats liés à l'école. Vous êtes d'accord, vous, avec ce constat, les enfants rois, les enfants à qui on a donné peut-être trop de liberté sur certains points ?
Matériel.
C'est un constat qui a été fait. Il y a tout un débat sur la génération de mai 68, sur tout le domaine de l'éducation. Est-ce qu'effectivement, aussi dans l'école, est-ce que les enfants sont un peu trop de liberté ? Est-ce qu'il
ne
faudrait pas un peu plus d'autorité ? L'important, c'est le résultat. Je crois que le moyen, après, c'est une autre question. Si le moyen permet d'arriver au but poursuivi, c'est vrai qu'on a aujourd'hui dans l'école un certain nombre de problèmes aussi justement avec une partie de la jeunesse qui n'arrive pas à s'intégrer dans l'école et puis qui après se trouve marginalisé. Je ne suis pas un partisan d'un retour à l'autorité ou à l'école de grand-papa, mais peut-être qu'un mix entre les deux. On se rend compte souvent que les extrêmes ne sont pas des bonnes choses, que des fois on passe d'une extrême à l'autre et puis le balancier devrait s'arrêter un peu au milieu pour qu'on trouve la bonne solution.
David Salig.
Moi j'ai juste un petit constat complètement extérieur, mais l'impression que j'ai en écoutant le débat, c'est qu'on a tendance peut-être à exagérer un petit peu ou à dramatiser un petit peu la situation. Et je crois qu'en fait, à force de voir les parents, et je suis sûr que le constat existe et qu'il y a plein de parents qui culpabilisent et qu'il y a plein d'enfants qui ont de la peine à se prendre en main, etc. Maintenant, si on regarde autour de nous, on a quand même énormément de gens qui sont motivés, on a des gens qui veulent trouver du travail, on a des gens qui veulent partir à l'étranger, on a des jeunes qui veulent apprendre des langues, on a des jeunes qui se lèvent le matin pour faire du sport. Donc je pense qu'il ne faut pas voir non plus le verre à moitié vide. Mmh. Et l'impression que j'ai, c'est aussi qu'on devrait peut-être essayer de responsabiliser plus les jeunes le plus tôt possible. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on se rend compte dans la plupart des études qui parlent du bonheur et qui parlent d'autres choses ? C'est que plus vite les gens sont armés pour être responsables et autonomes dans leur vie, plus facile ça va être pour eux de faire face à des choix, d'essayer de trouver des solutions à des problèmes quand ils en rencontreront, etc. Et je pense qu'en fait, tout élément qui peut permettre d'aider un jeune à faire preuve de plus de raisonnement, d'un meilleur raisonnement, d'être capable d'être plus autonome, d'être plus responsable, risque de l'aider. Et c'est peut-être là-dessus qu'à force d'avoir couvé une série d'enfants, qu'on a peut-être un peu plus de peine aujourd'hui.
Réflexion intéressante, oui, je vous remercie. Réflexion intéressante, Martine Libertino. Au fond, est-ce qu'il ne faut simplement pas donner plus de responsabilité aux jeunes, la responsabiliser davantage par rapport à la vie, par rapport à leur rôle dans la société, et puis tout ira bien. Est-ce qu'on ne crée pas un peu un problème où il n'y en a pas ? C'est un peu aussi ça que nous dit David Salig.
Alors justement, je suis entièrement d'accord avec David Sadik. Et quand M. Comte a parlé d'autorité tout à l'heure, évidemment j'ai réagi dans mon coin parce que c'est, je ne pense pas que c'est ce qu'il veut dire non plus. Nous ne sommes pas, maintenant, nous ne devons pas revenir en arrière parce que cette liberté que nous avons est très bonne. Il faut simplement, comme dit M. Sadik, responsabiliser les enfants. Mais les responsabiliser, ça veut dire quoi, hein ? Ça veut dire aussi leur montrer que nous sommes responsables. Ça veut dire leur montrer que nous sommes idéalistes. Ça veut dire leur montrer que nous sommes honnêtes, que nous avons, que nous sommes capables, nous, de nous aimer. Vous voyez, parce que depuis 30 ans que je vois des enfants, les enfants regardent, les jeunes regardent les adultes et ils ont envie d'y croire, mais malheureusement, je crois que c'est là où est un petit peu le problème. Vous voyez, donc c'est un travail de tous ensemble, pas seulement les jeunes.
Raphaël Comte, 30 ans, vous êtes encore jeune, je crois qu'on peut le dire. Donc, peut-être d'abord, où s'arrête la jeunesse, on va conclure ce sujet là-dessus, mais aussi, par rapport à ça, vous êtes d'accord avec ce constat, avec cet appel au fond que fait Martine Libertino, appel aux jeunes à davantage se prendre en main, à être plus prospectif aussi sur leur volonté.
Oui, je crois que c'est une nécessité, mais comme ça a été dit précédemment, c'est vrai que là on a parlé des 5% de jeunes qui ont des problèmes réels. L'immense majorité des jeunes va bien, je crois qu'il faut aussi le dire. Alors c'est clair qu'on a plutôt tendance, notamment dans les médias, à s'intéresser aux trains qui n'arrivent pas à l'heure qu'à ceux qui arrivent à l'heure. C'est normal parce qu'il faut résoudre les problèmes et pas ce qui va bien.
Les gens sont très inquiets sur les jeunes, hein, qui disent aujourd'hui, voilà, même en Suisse en particulier, ils payent à tous les râteliers, c'est toujours eux qu'on incrimine, c'est toujours à eux qu'on s'en prend, c'est en plus à leur porte-monnaie qu'on s'en prend, sur le chômage, ils ont moins de droits. Vous voyez, il y a quand même tout un débat autour de l'amplitude qu'on donne aux jeunes.
Tout à fait, mais c'est vrai que la grande majorité, heureusement, va bien et puis ne pose aucun problème. Il faut aussi penser à cette partie-là de la population, parce que c'est vrai que pour une partie de la jeunesse, d'entendre des discours qui sont des fois un petit peu négatifs, ça peut être un peu énervant à la longue, mais il y a toute une préoccupation à avoir sur la place des jeunes dans notre société.
Et le rôle des parents, quand on habite chez ses parents à 30 ans, justement, ça peut participer du bon développement, vous dites, c'est quelque chose qui peut être encourageant pour les jeunes ?
Si la responsabilisation est faite, c'est-à-dire que, et c'est le rôle d'éducation finalement, que de responsabiliser, puis que d'amener le jeune à trouver une liberté, hein, c'est pas justement de le materner et puis de vouloir le garder au sein du cocon familial et de l'empêcher d'affronter la société, c'est au contraire de donner tous les moyens d'affronter la société. Si c'est le cas, après l'organisation familiale, savoir où on habite, etc., devient relativement secondaire.
En tout cas, merci d'être avec nous, hein, ce matin, Raphaël Comte, notamment pour témoigner, évidemment. On va parler maintenant d'Internet. Peut-être potentiel sauveur de l'horlogerie suisse, si tant est qu'elle ait besoin encore d'être sauvée. Mais en tout cas, David Sadig, à l'occasion de l'ouverture du Salon international de la haute horlogerie, le SIHH à Genève, l'étude World Watch Report que vous publiez est révélatrice. En dépit de la crise, la demande exprimée sur Internet pour la haute horlogerie a progressé de 14% l'année dernière. Ça veut dire donc qu'Internet, c'est tout simplement le nouveau moyen de vendre et de bien vendre des montres suisses.
Juste une question. Là, vous avez dit la demande, c'est la demande ou l'achat ? C'est de quoi on parle en fait ?
On parle clairement de la demande, à savoir du nombre de personnes qui recherchent des produits pour des marques de haute horlogerie. Alors peut-être ce qu'il faut préciser, c'est quand on parle de marques de haute horlogerie, on parle de produits qui sont sur des prix supérieurs à 15 000 francs suisses et qui sont des produits manufacturés haut de gamme et en l'occurrence pour tous ceux qu'on a étudiés Swiss Made. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, il y a énormément de gens et effectivement une progression de 14% par an qui, au travers d'Internet, s'intéressent à ces marques de haute horlogerie. De plus en plus de gens qui recherchent, qui s'informent, qui cherchent à comparer même les prix parfois, qui cherchent à connaître les coloris disponibles, qui cherchent à savoir où pouvoir acheter les produits et qui, en fait, utilisent simplement Internet pour ce à quoi sert Internet, s'informer.
Ça veut pas... Il y a quand même l'immixtion là-dedans des réseaux sociaux. Hein. Il se passe quelque chose avec Facebook, ce site. Donc Facebook représente la plus grande communauté de fans d'horlogerie. Il y a plus de 300 000 membres déclarés. Ce n'est pas juste pour voir les couleurs disponibles, c'est vraiment pour faire partie d'une communauté.
Alors je crois que Facebook, effectivement, Facebook c'est la complémentarité de ce que j'expliquais, à savoir que parmi tous ces gens qui recherchent de l'info sur des marques horlogères, vous en avez un certain nombre, et effectivement sur Facebook le chiffre est assez impressionnant, vous l'avez dit, hein, c'est 300 000 personnes.
Et plus 400% qui sont devenus... d'augmentation. Hein, oui.
C'est ça, sur une année vous avez eu 400% d'augmentation de gens qui sont devenus fans de marques horlogères sur Facebook. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces gens-là, on sait aujourd'hui qu'il y a des centaines de millions, enfin je crois que c'est 250 millions aujourd'hui, voire peut-être 300 millions, le nombre d'utilisateurs sur Facebook. Si vous prenez en fait ces utilisateurs sur Facebook-là, vous en avez effectivement 300 000 qui sont devenus volontairement fans d'une marque horlogère. Ça veut dire, on ne leur a pas demandé, on ne leur a pas dit forcément « venez, devenez fan », etc. C'est eux qui ont décidé, parce qu'ils ont vu un ami devenir fan, parce qu'eux-mêmes aiment une marque, etc., d'aller en fait s'identifier en devenant fan d'une marque horlogère. Et effectivement, là-dessus, il y a un changement de paradigme avec des gens qui affichent très haut les couleurs et qui s'associent en fait fièrement aux marques qui les incarnent.
C'est intéressant. Olivier, réaction.
Devenir fan, c'est très facile. Hein. Il suffit d'un clic et moi, je suis fan de n'importe quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment un critère ou est-ce que simplement c'est participer à un buzz et ça suffit
Il faut encore le faire, ce clic. Hein. Oui.
Je pense qu'en fait, ce que vous dites est tout à fait juste. C'est-à-dire que pour des profils comme Monsieur Pain et moi-même, on est probablement fan de 10 fois plus de pages en moyenne que les autres. Donc oui, dans votre cas, je pense qu'effectivement, je ne considérerais pas le clic comme une marque d'intérêt spécifique pour une marque. Mais je crois que pour le commun des mortels, à savoir la plupart des gens, je ne pense pas qu'ils passent leur vie à devenir fan de tout ce qui passe. On le voit aussi avec les applications sur l'iPhone, c'est un petit peu la même chose. La plupart des marques horlogères ont lancé des applications sur l'iPhone et vous avez de plus en plus de gens aujourd'hui, y compris des gens qu'on a rencontrés qui ont plus de 50 ans aujourd'hui, qui installent des applications sur leur iPhone dans le but de découvrir les nouveaux produits, de s'identifier à la marque, de savoir ce qui se passe, etc. Donc je crois qu'il y a simplement un changement dans la manière dont on s'informe qui fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent se retrouver plus près des marques et peuvent décider librement de la marque à laquelle ils souhaitent s'abonner pour recevoir des informations, etc., sans forcément avoir besoin d'aller dans une boutique, d'aller dans un hôtel 5 étoiles pour prendre le magazine ou le catalogue, etc.
Et ben c'est là-dessus qu'on va conclure ce Grand 8 et donc le Salon international de la haute horlogerie, le SIHH, en ce moment à Genève. Merci beaucoup, David Sadik, d'avoir été avec nous ce matin. Merci également à vous, Martine Libertino, Raphaël Comte, et merci à vous, Jean-Olivier Pain. Bonne journée à vous aussi. On vous retrouve sur notre site internet, g8.rs.ch. 8h32, bonne journée à vous. Voici l'Espresso.